santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Bonjour, j'ai envie de dire bonjour Sensei, Vincenzo Castronovo, comment allez-vous ?
Bonjour Fabrice, je vais très bien. Comment vas-tu ce vendredi matin ? Après une semaine, j'imagine bien occupé.
Mais oui, c'est le vendredi, c'est le jour préféré de beaucoup de personnes, je peux vous dire. Enfin, le vendredi soir particulièrement, même si quand on aime, on ne compte pas. Et je sais que vous, par exemple, les...
Il y a d'ailleurs une chaîne de restaurants aux États-Unis qui s'appelle Thanks God It's Friday. Je ne sais pas si tu savais ça.
Ah ben non, mais moi je n'arrive
pas. Tu ne connais pas TGF.
Je n'ai jamais sorti de ma campagne, moi. Et d'ailleurs, pour vous, le week-end, ce n'est pas forcément synonyme de repos parce que vous faites des formations, vous êtes toujours occupé, vous êtes un
workaholic. Évidemment, le week-end passé, j'étais à Marne-la-Vallée, figure-toi, pour une formation de 2 jours sur la nutrition et le cancer. J'imagine que dans le courant de nos interventions le vendredi matin, nous aurons l'occasion de parler de cette approche importante, puisqu'on sait aujourd'hui que plus de la moitié des cancers sont directement liés à l'alimentation. Un truc de ouf. Hein.
Voilà. Oui, bah, effectivement.
Mais nous étions, je pense, Fabrice, si mes souvenirs sont bons, nous, on n'avait pas encore avalé le morceau la fois passée, puisqu'on parlait encore de mastication.
Alors, merci.
Me trompe-je ?
Non, vous ne vous trompez pas. On parle donc des 7 colonnes de la santé. Les podcasts sont disponibles et cette émission sera d'ailleurs disponible en podcast aussi à partir de dimanche 18h. Et dans ce cadre-là, on a parlé du tube digestif et là, on était sur la mastication. Vous m'avez dit, c'est extrêmement important. Donc, on va continuer encore à développer ce sujet.
Absolument, excuse-moi de t'interrompre, mais voilà, mieux vaut que tu mastiques et que tu ne parles pas en même temps. D'ailleurs, justement, quand on mange, hein, on doit mastiquer jusqu'à ce que la consistance de ce qu'on va déglutir a atteint celle d'une panade qu'on donnerait à un bébé. Okay ? Et pas, il ne faut pas parler en mangeant, il faut manger en pleine conscience, c'est-à-dire bien profiter, essayer d'identifier les goûts et se faire plaisir. Manger est également un plaisir. Et plus nous avons l'alimentation dans la bouche, plus le cerveau va être satisfait. Et la satiété va arriver plus tôt. Donc, quand on mange lentement et qu'on mastique bien, généralement, on va manger beaucoup moins et on va donc avoir cet état de plénitude de satiété qui va être atteint avant qu'on ait. Alors, quand vous lancez manger au lance-pierre, évidemment, le cerveau n'a pas le temps de se rendre compte. Et un de mes succès, si je peux, sans être arrogant, dire, est celui d'un jeune garçon qui s'appelait Elliot. Elliot qui a 17 ans. Elliot est obèse depuis la naissance, a toujours été le plus gros. À l'école, on se moquait de lui. Il a eu beaucoup de médecins qui sont intéressés à son cas. Et puis on s'est dit, ben voilà, écoute, on peut rien faire, tu vas faire de l'exercice, manger moins, etc. On peut des remarques diététiques assez basiques. Et il n'a pas perdu. Et donc finalement, ses parents me l'amènent. Et il vient la première fois, il me raconte son histoire, et je lui dis, écoute, mon Elliot, si tu avais vraiment envie de perdre du poids, à partir de maintenant, hein, dès que tu as un aliment solide en bouche, tu ne l'avales que lorsqu'il a une consistance de panade. Tu vas manger en pleine conscience, tu ne regardes pas ton téléphone et tu essayes d'apprécier. Et je le revois 6 semaines après, hein. Et figure-toi, Fabrice, que le jeune homme, il est radieux, il a perdu 10 kilos, il n'a pas changé son alimentation, il n'a pas fait plus de sport, il n'a pas pris de compléments, il a juste mangé lentement et avalé lorsque l'alimentation était fabriquée. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il me dit, écoutez, ce qui est remarquable, c'est d'abord, je me rends compte que maintenant, quand je mange par rapport à quand je mangeais et que je ne mastiquais pas, eh bien, je mange beaucoup plus. C'était énorme les quantités que j'avalais. D'autre part, ce que je vois également, c'est que quand je mangeais au lance-pierre, après un certain temps, j'avais faim très vite. Et maintenant, je suis en satiété plus longtemps. Donc, que se passe-t-il ? Il se passe qu'il y a une communication entre la mastication et le cerveau, et on a estimé que quand on a mastiqué, mais mastiqué, pas juste manger, 20 minutes, eh bien, il y a un système de satiété qui s'active. Okay ? Alors d'autre part, et ça on le verra plus tard, puisqu'on va continuer notre chemin le long de ce tube qui fait plusieurs mètres, hein, environ 7 mètres pour l'humain, entre 7 et 9 mètres, ça dépend. Eh bien, donc, ce qui se passe, c'est que la mastication est l'élément déterminant qui dépend de notre volonté, qui participe à la digestion. On a expliqué que la digestion, c'était la transformation des molécules de la vie, des longues chaînes, des colliers de glucose pour l'amidon et le glycogène qu'on trouve éventuellement dans la viande, des carbohydrates, et les acides aminés pour les protéines. Et que, en vérité, la digestion consistait à égrener toutes les perles et que seules les perles étaient absorbées. En effet, les polymères, donc les colliers, sont spécifiques de l'individu, de l'espèce, alors que les perles sont universelles à tous les êtres vivants. Et finalement, les protéines d'un virus, d'une plante, de Fabrice ou bien d'un champignon, eh bien, ce sont les mêmes acides aminés qui vont former les protéines de ces différentes entités vivantes. Donc, première chose, il va être rassasié plus rapidement, mais également en optimisant la préparation à la digestion, qui est une digestion chimique et physique, puisqu'on va casser les fibres, etc., et les parois des cellules, eh bien, on va améliorer toutes les phases de la digestion. Et on va diminuer le risque qu'arrivent au niveau du côlon des protéines non digérées. Ces protéines non digérées ne seront pas absorbées et elles vont être utilisées comme aliments par des bactéries dites de putréfaction, on en parlera plus tard, qui sont le plus souvent des bactéries pathogènes. Okay? Et donc, ces bactéries pathogènes vont créer éventuellement de l'inflammation locale. Cette inflammation va être systémique, c'est-à-dire tout le corps va recevoir ce message d'agression et éventuellement, si cette inflammation perdure, quand on a de l'inflammation, on va devenir résistant à l'insuline. Ça veut dire qu'on va avoir trop d'insuline et éventuellement on fera des hypoglycémies. Et c'est ce que Elliott avait bien noté, sans comprendre bien sûr toute la mécanistique biochimique de cet événement. Donc mastiquer en pleine conscience permet d'être rassasié et de réduire significativement les processus dits physiopathologiques qui entraînent la résistance à l'insuline, l'hyperinsuline, et l'insuline est l'hormone du stockage qui va faire en sorte que les calories soient stockées dans la graisse et le plus souvent la graisse viscérale abdominale. Donc bien mastiquer est important.
Mastiquer, encore mastiquer, on a vu avec cet exemple d'Eliott, hein, jusqu'à 10 kilos.
Fabrice, je voudrais bien quand même que tu comprennes que c'est mastiquer, pas s'astiquer. Hein. Parce que j'ai eu un jeune comme ça et la maman me dit, mais qu'est-ce que je vais dire à mon fils, il n'arrête pas de s'astiquer, monsieur.
Oui, hein? Bah, il faudrait que ça fait maigrir aussi quelque part. Bon, après là, si on...
Le risque, c'est d'avoir une carence en zinc, tu vois.
Bon, et donc une complémentation en zinc, une double mastication pour aller perdre du poids davantage. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va revenir sur des sujets sérieux, mais d'abord, nous marquons une toute petite pause. Et c'est sur Nutri Radio, reste avec nous.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
La suite de cette émission, la santé selon Castronovo. On parle de mastication, on parle surtout, vous savez, les 7 colonnes de la santé. Et on parcourt ce tube digestif, l'importance de la mastication.
Mastication, absolument. Est-ce que tu sais qu'il y a des études? Alors moi, je parle de la mastication depuis environ 25 ans. Et au début, on m'a pris pour un farfelu. Hein? Parce que figure-toi, Fabrice, que je suis persuadé, et l'expérience m'a montré que je ne me trompais pas, que si on prenait le temps de rééduquer et de parler de la mastication dès l'enfance à tout le monde, on pourrait réduire les frais de la sécurité sociale de 50%. Okay? Parce que quand on ne mastique pas, c'est quasi une option pour avoir un microbiote qui est dysbiotique, c'est-à-dire un microbiote qui est de mauvaise qualité. Okay, qui va se manifester assez directement. D'ailleurs, plus tard, je vous dirai qu'on peut jauger la qualité de sa mastication par rapport à production gazogène, okay, c'est-à-dire par nos érectations aborales. L'érectation aborale est une manière délicate de parler du paix ou du prout, hein, tu vois. Donc, évidemment. Donc, en général, notre flore produit une certaine quantité de gaz qui est discrète pour la plupart, mais lorsque vous suralimentez cette flore en apportant des aliments qui ne sont pas digérés, alors là, les bactéries font la fête, hein, c'est la nouba, et l'expression de cette nouba, eh bien, c'est des gaz, et ces gaz vont s'éliminer par l'extrémité aborale, c'est-à-dire, extrémité aborale, c'est le nom scientifique de l'anus ou trou de balle, pour ceux qui préfèrent, okay, et donc ça va faire des proutes, ou bien par les poumons, car une partie des gaz intestinaux sont éliminés par l'air qu'on expire. C'est assez intéressant. Donc, tu as déjà remarqué que certains, d'ailleurs, quand on en prend conscience, on s'en rend compte, il y a certaines personnes qui ont une haleine de chacal. Pourquoi est-ce qu'on parle d'haleine de chacal? Parce que le chacal est un carnivore qui mange beaucoup de protéines, qui a beaucoup de bactéries putréfactions, et il a des gaz putrides produits par ces bactéries qui digèrent les protéines, qui sont éliminés par l'haleine. D'ailleurs, souvent, quand on a une grosse guindaille, qu'on a mangé beaucoup, etc., le matin, eh bien, notamment, notre partenaire ne veut pas nous faire de bisous, et on se rend compte qu'on n'a pas été piqué par les moustiques, parce que les moustiques n'ont pas osé nous approcher tellement qu'on a une haleine désagréable. En effet, les gaz de putréfaction s'appellent cadavérine et putrescine, et rien que l'évocation de ces noms vous donne l'idée du parfum qui s'en dégage. C'est en fait l'odeur de la mort. Et moi, je me rappelle, avant que je m'intéresse à la nutrition, j'avais un gosse à l'école, au collège, et une fois, il me disait à la voiture, papa, il y a Frédéric. Je te jure, il me dit, il pue du cul par là où j'ai. Enfin, Mathieu, tu peux pas dire ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Il avait, ce garçon, probablement, qui digérait pas bien, qui mangeait trop vite, avait une flore de putréfaction, et il éliminait ses gaz par la respiration. Donc, finalement, la notion importante, c'est qu'on expire ses pets. Et donc, si vous avez des gaz qui sont très mauvais, c'est la signature que vous n'avez pas bien digéré les protéines, et souvent parce que vous avez mangé trop vite. Donc on peut auto-évaluer sa digestion et donc sa mastication en contrôlant le parfum ou l'odeur désagréable de ses éructations aborales. Donc ça, c'est hyper intéressant.
C'est parce que là, vous m'avez fait un petit mix de, à la fois de langage fleuri et de langage très, très soutenu pour dire des choses. C'est bien, au moins tout le monde comprend.
Ben c'est l'idée, hein, c'est que tout le monde comprend et peut s'évaluer. Quand, par contre, vos gaz ne sentent pas, okay, eh bien, c'est que vous avez amené à votre microbiote au niveau du côlon, qui pèse 2 kg, on en parlera, eh bien, des carbohydrates, c'est-à-dire des polymères de glucose, de l'amidon, de la pomme de terre, des pâtes que vous n'avez pas mastiquées. Et là, la flore de fermentation ne fait pas ces gaz putrides, ces gaz volatiles qui sont toxique et désagréable. Quoique, on saura qu'un minimum de toxicité n'est pas mauvais globalement pour votre partenaire, mais ça on en parlera plus tard quand on parlera des mitochondries, un autre sujet intéressant. Alors, donc vous allez demander quand vous êtes satisfait, j'espère que vraiment, pour les auditeurs, si vous prenez conscience vraiment que vous devez manger et mastiquer bien, manger lentement en pleine conscience, je vous assure que vous allez avoir un gain potentiel santé de ouf. Hein. Vous n'allez même pas vous rendre compte, hein, mais c'est vraiment fondamental. Et heureux ceux qui captent ce message et l'implémentent, c'est-à-dire le pratiquent. Mais c'est à chaque fois, chaque fois que vous avez un aliment solide, vous devez le mastiquer. Et là, c'est une garantie que la digestion sera optimal, ça dépendra bien entendu d'autres concepts, notamment de l'état de votre estomac, mais également du pancréas, du foie, etc. Mais déjà, le tube digestif, comme je l'ai rappelé, obéit à la loi du maillon faible, qui dit quoi? Que le résultat global de tout le processus ne sera jamais au-dessus, en qualité, de l'étape la moins performante. Donc si vous avez tout 10 sur 10, mais que la mastication c'est 2 sur 10, eh bien le résultat global, ce sera 2 sur 10, quoi que vous fassiez. Okay. Donc ça c'est hyper important. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes âgées édentées on leur mouline l'alimentation. Ce qui est assez dégueulasse d'ailleurs. Hein. Parce qu'imaginez manger un steak frites salade moulinée, ben c'est pas très ragoûtant parce qu'on mange aussi avec les yeux.
C'est pas la même expérience hein, pour le coup.
C'est pas la même expérience.
On va marquer une petite pause. Ce sera la dernière et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. La santé selon Castronovo, c'est sur Nutri Radio.
La La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Quelle passion, Sensei. Vous nous avez appris des choses aujourd'hui encore. C'est pas fini, mais je ne pensais pas qu'on allait parler autant de paix, de prout, ensemble, en sachant que maintenant, on peut y faire quelque chose sur l'odeur, notamment en mastiquant, mesdames, messieurs. Plus vous allez mastiquer, mieux vous allez digérer, et donc, a priori, moins vous allez puer du bec. Ça, plus un chewing-gum, on est bon pour une petite sortie entre amis. N'est-ce pas, Vincent ?
Absolument, absolument. Donc, on a presque fini, et on va bientôt avaler. Je voulais rappeler également que lorsque vous buvez des calories, le cerveau ne comptabilise pas ces calories. Donc, pour tous ces... qui boivent en mangeant éventuellement du coca, un soda pour ne pas le mentionner, mais je pense que ces producteurs de coca sont vraiment des génocidaires. Vous devez savoir que la consommation de sucre tue un humain par seconde dans le monde, ok, et tous ces sodas sont extrêmement impliqués dans cette morbidité importante. Eh bien, votre cerveau ne compte pas les calories, parce que pendant des générations, des millions de générations, le seul liquide qu'on buvait, c'était de l'eau. Et donc, avoir de l'eau qui passe dans le tube digestif n'est pas associé, et le cerveau n'est pas content. Ok. Alors, ce qui est important également, on parlera plus tard, des récepteurs au sucre, au glucose non cognitif, c'est-à-dire que vous mangez des aliments qui ne vous apparaissent pas sucrés, mais qui vont donner une information au cerveau qu'il y a du glucose, et votre cerveau va activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense, la dopamine, et va vous dire que chaque fois que vous aurez l'occasion de faire la même chose, il faut le faire parce que il va kiffer sa race d'avoir du glucose. Donc il y a ces notions, il y a des sucres cachés, qui sont des sucres cachés parce qu'ils ne donnent pas le goût sucré, qui vont nous donner également cette sensation que l'aliment est bon pour nous et que notre cerveau va en vouloir et en vouloir. Donc il y a toute une manipulation de l'industrie agroalimentaire pour nous rendre addicts à ces aliments. Okay. Donc voilà, donc maintenant, alors pourquoi s'il ne faut pas boire beaucoup non plus en mangeant? Parce qu'on va diluer les enzymes digestives et elles sont moins efficaces. Okay. L'objectif du tube digestif, c'est de transformer tous les aliments en nutriments absorbables. Okay. Toute chose qui va interférer avec ce processus va avoir comme conséquence une perturbation du microbiote. Et on sait aujourd'hui, par exemple, c'est assez étonnant, hein, mais que le déficit de mastication altère la mémoire. Donc même pour ceux qui, les étudiants, les jeunes qui doivent et qui écoutent et qui doivent étudier, ou les moins jeunes d'ailleurs, sachez que si vous avez un mauvais microbiote parce que vous ne mastiquez pas bien, eh bien vous aurez une mémoire qui sera affectée. D'ailleurs, il y a un lien entre mastication et risque de développer la maladie d'Alzheimer. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous disais que la rééducation permanente à la mastication, la prise de conscience est quelque chose d'important et tout nous porte à ne pas mastiquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les aliments en général sont mous. Ils sont mous, donc vous n'avez pas ce besoin de mastiquer. Comme conséquence, c'est que quand on ne mastique pas, on ne simule pas l'alignement optimal des dents. Et je parlais avec un orthodontiste qui me disait, eh bien, en Afrique où ils n'ont pas tous ces aliments, pas encore aliments mous, etc., eh bien, il y a très peu de jeunes Africains qui ont des problèmes de positionnement des dents parce que justement, cette mastication, elle est extrêmement importante pour maintenir notre appareil masticatoire en pleine forme. Donc voilà. Donc, lien entre mastication et la plupart des maladies de civilisation, obésité, diabète, on a parlé d'insuline, maladies neurodégénératives, et également cancer du côlon, qui, comme je le rappelais ce week-end, est le troisième tueur le plus important, alors que ce n'est pas le cancer le plus fréquent. Le cancer du côlon est vraiment un assassin qui prend du poids au niveau des pays occidentaux. Et je vous rappelais d'ailleurs que, alors que la mortalité cardiovasculaire reste le numéro un de la population mondiale, dans les pays occidentaux, c'est le cancer qui largement a pris le leadership de nombre d'humains qui meurent prématurément par une maladie chronique, bien c'est le cancer dans les pays occidentaux. Et la mauvaise digestion, et certainement et les aliments, bien sûr, dénaturés contenant toute une série de toxines, jouent un rôle important. Mais sachez que, comme l'a dit Hippocrate il y a 2400 ans, toutes les maladies commencent au niveau de l'intestin. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu une exception à cette déclaration tellement géniale d'Hippocrate qui continue à moi à m'inspirer journellement, parce que finalement, par ses observations objectives qui n'étaient pas polluées par d'autres concepts, il a pu vraiment dessiner les autoroutes majeures de la santé, et notamment que le tube digestif est un pilier fondamental. Il ne savait pas que c'était un organe endocrine, que c'était le plus important organe du système de défense immunitaire, et tout ça, maintenant, on le sait. Donc finalement, on ne peut que saluer l'intelligence remarquable, intuitive de ce grec Hippocrate. Et comme vous savez, les Grecs ont été en Sicile, et donc probablement qu'il y a un petit peu d'Hippocrate qui est passé dans les gènes des Siciliens. Allez, dont je suis un fier représentant.
Allez, je vous ai pas arrivé là, je vous ai vu arriver il y a 2 kilomètres déjà. Alors vous parlez du côlon.
Vous avez une bonne vue, hein, c'est pour ça.
Vous parlez du côlon, bah, tout vient de Sicile, hein, on le sait. Vous parlez du côlon, vous disiez tout à l'heure qu'il pèse 2 kilos, c'est ça?
Ah non, j'ai ça, dit que le microbiote, donc le côlon, c'est cette partie distale de l'intestin qu'on appelle le gros intestin, qui est beaucoup plus large que l'intestin grêle. Et dans ce côlon vivent 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Et quand on prend un microbiote, c'est, en fait, il pèse 2 kilos. C'est l'organe, le microbiote est un organe extra-humain. Okay, qui contient non seulement des bactéries, mais des virus, des parasites et des champignons, qui sont nos hôtes habituels, qui doivent être présents en quantité relative respectée, avec bien sûr une dominance des bonnes bactéries qui nous veulent du bien, avec lesquelles nous avons développé des relations symbiotiques, c'est-à-dire win-win. On leur offre le couvert et le logis, et contre cela, elles nous font toute une série de services absolument nécessaire, notamment empêcher les mauvaises bactéries de s'installer, mais également détruire les substances toxiques et réguler la fonction intestinale. Donc voilà. Donc cet organe extra-humain ne peut plus être négligé, jamais, car on sait aujourd'hui qu'il joue un rôle fondamental. C'est le pilote de notre santé somatique et psycho-affective. Okay.
Bien, merci beaucoup Vincenzo. On va terminer cette émission en répondant à des questions, parce que je vous le dis, chers auditeurs, vous pouvez évidemment participer à cette émission, soit en posant vos questions, des questions écrites sur le site de nutriradio.fr par exemple, c'est ce que vous avez fait, et on va répondre à la question de Joël dans un tout petit instant, soit en nous envoyant un message sur le WhatsApp de la radio 0666 945 902, vous pouvez même nous laisser un message vocal.
Quelle mémoire!
Ah bah oui, surtout que j'ai un
gros... Vous lisez.
J'ai un gros post-it qui clignote avec les numéros, ça fait 2 ans, j'ai toujours pas retenu. 0666 945 902. Et donc, question de Joël qui nous dit: les émissions et podcasts de Vincenzo Castronovo sont passionnants, je les attends avec impatience.
Merci.
Donc, on vous salue Joël si vous nous écoutez, et vous voyez, on ne vous a pas oublié. J'ai une petite question concernant le dosage des micronutriments. Enfin, vous êtes toujours là Vincenzo?
Je suis là, oui.
Vous avez tout, ok. Afin de savoir s'il est conseillé ou non de prendre des compléments, alors concernant le dosage des micronutriments, afin de savoir s'il est conseillé ou non de prendre des compléments alimentaires, j'ai compris que ça n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Mais comment peut-on le réaliser? Quel serait le montant maximum d'un tel acte? Donc, voilà, ce qui concerne le dosage des micronutriments.
Joël, c'est une très bonne question, elle est pertinente. Alors, vous allez savoir que c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que, évidemment, certains de ces micronutriments fonctionnent à une concentration optimale. Que quand il n'y en a pas assez, ça fonctionne moins. Mais par contre, pour certains nutriments, quand il y en a trop, c'est mauvais. Et finalement, l'excès nuit en tout. Et les micronutriments n'échappent pas à cette règle fondamentale. Et donc, évidemment, qu'il est bon de corriger, et d'ailleurs c'est dans le Conseil de la médecine 4P, et je pense que vous avez peut-être entendu cette émission, sinon je vous invite à réécouter les podcasts qui sont disponibles sur le site de Nutri Radio, comme Fabrice nous le rappelle suffisamment souvent. Eh bien, dans le pays, il y a la précision, okay, on va personnaliser la précision, c'est-à-dire on va corriger ce qui n'est pas bon et laisser tranquille ce qui est bon. Et quand on prend des nutriments comme ça au hasard, par exemple des vitamines parce qu'on est fatigué, il se peut que on se fasse du mal parce qu'on va dépasser le taux de certains nutriments qui vont compromettre le bon fonctionnement de la cellule. Donc, je pense que, alors, en effet, ces bilans ne sont pas remboursés parce que, et je n'ai pas peur de le dire, si une analyse n'est pas associée à la prescription d'un médicament breveté, donc qui va ramener de l'argent au Big Pharma, eh bien, il ne va pas être implémenté. Alors que, notamment en France, si vous êtes encouragé à doser le cholestérol parce qu'il est associé à la prescription d'un médicament qu'on appelle les statines, que je vomis littéralement, sauf dans certaines conditions exceptionnelles, okay, pour la prévention primaire de maladies cardiovasculaires, le cholestérol, dont on parlera certainement à un moment donné, est une molécule essentielle à la vie. Okay. Et ce que c'est l'hypercholestérolémie est une conséquence de toute une série de problèmes alimentaires, mais c'est pas la cause des maladies cardiovasculaires, c'est la conséquence de l'hypercholestérolémie. On en reparlera éventuellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que alors que les acides oméga 3 allongés, eux, sont impliqués lorsqu'ils sont déficitaires aux maladies cardiovasculaires, on ne va pas rembourser le dosage du profil d'acide gras, alors qu'on va rembourser et encourager le dosage du cholestérol. Donc c'est un peu dans cette situation. Donc évidemment que ces analyses vont coûter un certain prix. Pourquoi ? Parce que comme elles ne sont pas prescrites souvent, elles n'ont pas été robotisées, et donc elles coûtent cher. Souvent ça implique des manipulations manuelles du prélèvement, utilisation de machines, alors pour que le cholestérol, vous mettez le sang sur un robot et vous en faites je ne sais pas combien de centaines par jour, c'est la machine qui le fait. Donc voilà. Alors donc, je sais que je parle beaucoup, mais le dosage des micronutriments pour moi est indispensable pour avoir une prise en charge juste, précise et bénéfique, ok. Parce que je vois des patients parfois qui sont des taux extrêmement élevés de certains nutriments et c'est délétère pour la santé. Ça vaut un certain prix, mais là, pour moi, ça a de la valeur. Il ne faut pas confondre prix et valeur, ok. Beaucoup de patients, parfois, alors, je travaille, et vous l'avez probablement dit, moi je suis le président du comité scientifique du laboratoire LIMS-MBNES qui est ici en Belgique à Louvain-la-Neuve, et donc un bilan de base, ben, ça coûte 150 euros, je pense. On a les acides gras, le statut en fer, le cuivre, sélénium, zinc, le stress oxydant, la méthylation et quelques hypersensibilités alimentaires. Et pour moi, rien qu'avec ça, on va déjà loin et on peut corriger, vérifier. Et si vous faites cette analyse une fois par an, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, on peut analyser le microbiote. Et ça également, c'est une autre type d'analyse qui demande de la biologie moléculaire. Écoute, assez cher, mais je pense que chacun d'entre nous devrait avoir son microbiote réalisé au moins une fois dans sa vie pour voir où vous en êtes. Donc voilà. Alors, donc pas de supplémentation à l'aveugle parce que ça peut entraîner plus de problèmes que d'en résoudre et le coût est évident parce que le Big Pharma n'est pas intéressé à encourager à prendre des substances qui ne sont pas brevetées. D'autre part, il y a une tendance à oublier ce qui a été démontré avant et il faut toujours du nouveau parce que ce nouveau est brevetable, etc.
Bien, voilà. Alors, dans un instant, c'est la nouvelle émission hein, de Nutri Radio, Big Pharma. Ce sera... Je suis en train de me dire, mais il faut que je fasse une émission qui s'appelle Big Pharma. Bon, merci beaucoup, Vincenzo, d'avoir pris le temps de bien répondre à la question. Et puis, on rappelle que, effectivement, vous l'avez nommé, hein, le laboratoire LIMS, qui est spécialiste notamment dans tout ce qui concerne les analyses aussi de polymorphisme génétique, d'épigénétique, d'identité métagénomique. Vous pouvez peut-être aller faire un tour sur le site lims.mbnext.eu. Je vous mettrai le lien dans le podcast, puisqu'on l'a mentionné et on le mentionnera régulièrement, puisqu'on ira même faire un documentaire là pour Nutri TV. Restez branchés, comme dirait l'autre, car ça va être incroyablement intéressant. Merci beaucoup, Vincenzo.
Merci Fabrice et merci aux auditeurs, à très bientôt.
Cette émission, vous allez la retrouver en podcast à partir de dimanche, 18h. Dans un instant, c'est la suite de nos programmes sur Nutri Radio. Restez avec nous.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.